Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Encore une fois, depuis ce salon des vins nature, mi-ivre, mi-raisin, c'est la deuxième édition. Toujours en ce samedi 9 juillet 2022 au 115 Chemin des Cerisiers à Die. Vu, on peut le dire, l'affluence, Lolo, ça va se refaire.
C'est une très très belle édition.
C'est une belle édition, ça va se refaire. Toutes les personnes qu'on a reçues à ce micro étaient ravis de ce qu'ils sont en train de vivre. Et on va terminer cette journée, ce qu'il faut quand même bien terminer, avec un dernier rendez-vous. Ce sera le 9e de la journée. Avec Olivier, je vais essayer de bien le prononcer parce que c'est dur à dire vite. Olivier, du domaine des Élianthèmes.
Ouais, c'est ça. Ouais.
C'est le truc qu'il ne faut pas que tu dises quand tu commences à avoir les dents qui collent.
Non, il y a deux H dedans, Élianthèmes, et c'est fait exprès. C'est le nom, je pense que je dois avoir le nom de domaine le plus compliqué qui existe, mais au moins, je n'ai pas eu de problème pour le déposer à l'INPI, celui-là. On n'a pas cherché à m'en...
T'étais le seul à l'avoir.
Ouais, c'est ça. Mais les Élianthèmes, c'est une petite fleur absolument magnifique. On voit de loin, qu'on méprise un peu. Quand on la voit de près, c'est une perle. Et c'est une fleur de Bac.
Et c'est quoi sa particularité à l'Élianthème? Elle sert à quoi?
C'est une fleur de Bac, j'utilise pas les fleurs de Bac, que les huiles essentielles. Mais... Non, il fallait que je trouve un nom de domaine à un moment donné. C'est toute une histoire
très beau.
Un peu alambiquée, mais voilà, moi, l'histoire derrière me plaisait bien. Il se trouve que j'ai des Élianthèmes sauvages qui poussent sur le domaine. Donc,
ok, voilà. Alors il est où ton domaine?
Pyrénées orientales, donc Catalogne au nord. Moi j'ai deux frontières naturelles, ce sont les Pyrénées, enfin la frontière espagnole et la mer Méditerranée. Donc je suis à une petite dizaine de minutes de la mer et au piémont, vraiment sur les piémonts du dernier massif pyrénéen.
Donc, est-ce que tu as les deux influences, la mer et la montagne, qui viennent taper ton raisin, en faire quelque chose de particulier?
Complètement, parce que la grosse différence par rapport à la plaine, c'est que nous, pendant la nuit, les vignes vont toujours bénéficier de courants d'air frais qui vont redescendre sur les piémonts et qui va permettre de garder la fraîcheur, l'acidité, qui va compléter justement le caractère... le terroir, moi, toutes mes vignes sont sur des sols à pH acide, ce que je recherche particulièrement, qui va apporter de la fraîcheur, de l'acidité, et ce qui est très important pour nous dans le vin. Et ce côté de fraîcheur qui arrive toute la nuit des montagnes et va permettre de renforcer ça. Donc c'est vraiment un choix assumé, et ça se porte vraiment sur les vins. Ouais.
Tu travailles quel cépage?
Alors je travaille les grenaches, donc grenache blanc, grenache gris, grenache noir. Je travaille les carignan noir, carignan gris. Je travaille la syrah, je travaille le macabeu, je travaille... j'en oublie pas.
Voilà, macabeu, jamais entendu parler non plus.
Et bien sûr, oui, j'ai dit carignan, non, je pense que je les ai à peu près tous dit.
Tu as repris quand cette exploitation?
Alors j'ai pas repris d'exploitation, frère, moi j'ai c'est une histoire un peu... comme pas mal de vignerons en nature. Je ne suis pas du tout issu du milieu du vin.
Qu'est-ce que tu faisais?
Il y a une petite quinzaine d'années, moi j'étais en région Rhône-Alpes. Je n'étais plus en costume cravate, mais pas loin. J'étais ingénieur dans le bâtiment. J'avais un bureau d'ingénierie en haute qualité environnementale. Je courais la France et ça me gonflait de faire l'homme d'affaires. J'en ai eu ras-le-bol. Je voulais revenir à la nature et aux terres.
Mais pourtant, tu étais quand même dans une profession liée à l'écologie d'une certaine manière.
Complètement. Après, c'est le fil conducteur de ma vie. De toute façon, l'écologie, c'est... Moi, sans l'écologie, sans la nature, j'existe pas. C'est pas possible. Donc, il faut qu'il y ait un sens dans tous les travaux que j'ai faits, tous les travaux que j'ai faits. Il fallait qu'il y ait un sens par rapport à la planète. Ça va au-delà même de l'éthique. C'est presque génétique chez moi. Donc voilà, donc après l'idée c'est de... J'en avais marre de faire le businessman et ça se développait trop, donc j'ai tout revendu. Pour d'abord devenir agriculteur, donc pour faire du safran, de l'huile d'olive, de la grenade. On a créé le domaine, mais pour m'installer, je me suis installé comme jeune agriculteur. Et pour ça, il fallait que je passe mon BPROA, c'est le brevet professionnel S-Paysan. Et à l'époque, j'étais à cheval entre le Nord-Isère et la Catalogne Nord, donc c'était assez chaud avec les enfants, la famille. Bref, c'était vraiment Verdun dans ma vie et Beyrouth en même temps. Donc j'ai rajouté un BPRO là-dessus en temps complet, c'est mort. C'est mort. Et j'ai trouvé un organisme en France qui permettait de passer le BPROA en réservant ses semaines à l'avance. Et c'était à Beaune, en Viti, Vigny, Eno. Castantiel, je kiffais le vin, j'ai toujours kiffé le vin. Mais pour moi à l'époque, on ne pouvait pas devenir vigneron. On était vigneron de père en fils, on ne pouvait pas le devenir.
Ouais, t'avais pas pris cette option-là potentielle dans ton parcours agricole.
Absolument pas. Et c'est en faisant la formation où c'était le kiff total. Les gènes sont réveillés, enfin bref, c'est un virus, un gène, tout ce qu'on veut. Et j'ai dit, mais non, en fait, c'est ça que je veux faire, c'est pas planter tout le reste. C'était un peu plus compliqué que ça, donc avec mon ex-épouse, on s'est dit, bon, on va déjà temporiser, on va faire déjà l'exploitation telle qu'elle est prévue, et voilà. Puis on verra après. Bon, ça, c'était en 2011, 2012, et puis, bah, en fait, 2014, je touchais mes premières vignes, fin 2014, et feu, quoi. Et maintenant, je fais quasiment plus que ça, et je suis heureux de faire tout ça, quoi.
On a eu des histoires assez intéressantes par rapport à l'acquisition de ces vignes, ce que nous ont dit tous les autres invités sur ce plateau. Toi, tu les trouves comment? Elles sont dans quel état? Qu'est-ce que tu récupères? Quel prix ça a?
Il n'y a pas de règle. Alors déjà, j'ai pas que des propriétés. J'en ai qui sont encore en fermage, d'autres qui sont en commoda. Donc là, j'ai beaucoup plus de fragilité. C'est d'année en année.
Alors le fermage, j'en connais, mais le commoda, c'est quoi?
Le commoda, c'est comme un fermage, mais d'année en année. En fait, on n'a pas de règlement de paiement à faire aux propriétaires. C'est comme une mise à disposition, en fait. Mais qui peut être remise en cause d'une année sur l'autre, quoi.
Donc tu payes pas. Tu payes
pas tes vignes. Mais par contre,
je
sais pas demain ce que sera fait. Donc j'en ai une partie qui sont comme ça. J'ai une petite partie de fermage. Et là, maintenant, j'ai réussi à acquérir des vignes. C'est très compliqué à trouver des vignes parce que faut trouver le bon cépage. Il faut connaître un peu l'histoire de la vigne. Moi, je travaille en bio et je travaille plus mes sols, donc il faut être sûr que je travaille uniquement sur les questions d'enherbement. Ça marche super bien, mais par contre,
aucune mécanisation.
Oui, quasiment aucune. Ouais, quasiment. En fait, c'est de la micro-mécanisation que j'ai. J'ai du petit broyeur auto-tracté, mais j'ai plus de tracteur. Je veux plus passer au tracteur dans mes vignes pour plus écraser les sols. Ça fait une catastrophe. Pas de labour, surtout pas. Entre autres aussi parce qu'avec les questions de sécheresse chez nous, un labour c'est catastrophique, ça crée une évaporation terrible, ça arrache les racines, et les racines qui sont les draineurs naturels de l'eau pour les enfoncer, parce que le peu d'eau qui tombe, quand elle tombe, il faut être sûr qu'elle descende dans le sol. Hein. Faut pas qu'elle reste en surface et s'évaporer avec la tramontane le lendemain. Donc garder les racines d'air, même si elles sont séchées, ça c'est important. Donc il y a tout ce travail-là, j'ai mis pas mal d'années à me caler, depuis 2015. Et maintenant, voilà, je suis relativement calé sur ces sujets-là et ça fonctionne très 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 bien. L'an passé, on a eu une sécheresse terrible, hein. On a eu 100 mm d'eau qui sont tombés entre le 1er janvier et le 31 août, quelque chose comme ça, ou 100 ou 150 mm, donc grosso modo, rien. J'ai eu des rendements en jus qui étaient exceptionnels, tout allait bien, les vignes n'ont absolument pas souffert. Cette année j'ai eu des sorties en fleurs qui étaient très bonnes, donc elles n'ont pas souffert de l'an passé.
Par comparaison avec les autres vignes qu'il y a sur ton département, est-ce que tu peux vraiment constater que...
Oui, il y a une vraie différence. Moi j'ai pas mal de confrères qui cette année, l'an passé déjà, ont ramassé du raisin de Corinthe, entre guillemets, et qui cette année ont vu l'impact de la sécheresse de l'an passé parce qu'il n'y a quasiment pas eu de sortie de fleurs, quoi.
Et comment t'es perçu du coup localement?
Je suis pas perçu, je suis un petit vigneron dans mon coin qui fait son boulot et...
Ouais, mais tu pourrais faire partie de ceux où on se dit il a un peu eu berlu là-bas avec ses techniques et on n'adhère pas, ou alors il a compris.
Ouais, mais on est quand même nombreux sur le département. Il faut voir, sur les Pyrénées-Orientales, on est près d'une centaine de vignerons nature quand même. On est tous pris pour des hurluberlus, mais un peu moins maintenant. À la limite, on n'est plus pris pour des hurluberlus. On parle pas de nous, juste, alors qu'on commence à devenir une vraie force. Donc, quelque part, on s'aperçoit dans les discussions, par exemple, dans les ODG, les syndicats, CAF coopératifs, qui commencent à réfléchir sur les questions de sécheresse, etc. Et que forcément, ils regardent ce qui se passe c'est chez ceux qui font différemment. Et voilà, mais après, c'est très bien. C'est très bien si après les expériences qu'on peut mener, que je peux mener, peuvent profiter aux autres vignerons pour que le métier continue, même s'ils ne font pas du vin nature, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que les choses avancent et dans le sens de la planète, quoi. Ça, c'est important.
On parle un peu de ta production, comment tu travailles, qu'est-ce que c'est ta cave? Puis tu viens de cette formation Viti Eno, donc parle-nous un peu de ta manière de travailler l'œnologie.
Ah, j'aime pas parler d'œnologie. Je suis pas œnologue.
Mais je sais, c'est bien.
Je suis pas œnologue, je suis
pas sommelier.
Vous
dites tous pareil, mais ouais. Bon, vous êtes vigneron.
Vous faites tous votre vin. Faites tous votre vin. C'est vous ouais. Qui choisissez alors, les critères. Et...
Alors, déjà, en fait, il y a un seul critère. Pour moi, le premier critère pour la que je me suis fixé en fait dès le début, hein, dès ma première vinif, c'est un critère philosophique. C'est-à-dire, je veux faire les vins du terroir. C'est-à-dire, une parcelle va me donner du raisin. Ce raisin me donnera une cuvée. À moi de mieux la transformer dans l'esprit de la parcelle, dans l'esprit du cépage. Et si à la fin, moi, j'aime pas mon vin, mais que c'est ce qui correspond exactement à ce que doit donner la parcelle, alors ça sera le meilleur vin que j'aurais pu faire. C'est-à-dire que moi, je veux pas
donc
être intervenant.
T'isoles chaque parcelle, c'est un.
Je fais des
domaine.
Sélections. Bah, c'est majoritairement, bien sûr, des vins de cépage. Parce que généralement, je suis monocépage sur les parcelles, excepté sur le rosé où j'ai 7 cépages sur la parcelle. Et donc, du coup, ça fait un rosé avec 7 cépages dedans. Voilà. Mais c'est des sélections parcellaires.
Tu l'as choisi ça, cette cépage dans la parcelle, ou c'est ce que tu as acheté, il y avait cette cépage?
Ça, c'est un Komoda qui m'est arrivé, et quand j'ai reçu cette parcelle, j'ai dit qu'est-ce que je peux en faire de mieux.
C'est quand même énorme.
J'ai dit mais c'est évident, j'ai dit, de toute façon, un truc là, c'était évident que pour moi c'était en rosé. Il fallait en faire en rosé parce que bah, y a de la complexité, il y avait du fruit, il y avait tous les grenaches, tous les carignans, du macabre dedans. On en fait en rosé, des blancs, des rouges, on se pose pas la question quoi. Voilà. Tous mes vins, je les travaille de sorte à ce que je vais essayer de garder au maximum tout ce qui vient de ma parcelle. Je vais faire mes vinifications en m'assurant que ce sont bien les levures qui sont présentes sur le raisin de la parcelle en question qui va bosser dans la cuve en question.
Et comment
tu
fais ça ?
Cuve entièrement fermée.
Voilà.
Cuve entièrement fermée, inertée. Et tant que la fermentation n'est pas partie, tout reste complètement bloqué. Qu'il ne peut pas y avoir de contamination qui vienne de la cuve, d'une cuve d'à côté ou de
et
la cave.
Donc pas de carbone, pas de rien.
Je travaille avec du CO2 justement parce qu'on ne sait pas quand la fermentation va démarrer. Et entre temps, il peut y avoir des trucs vachement plus chelous qui se mettent à démarrer avant les bonnes levures. Donc moi, on fait ce qu'on appelle de l'inertage, c'est-à-dire j'envoie du CO2 gazeux dedans pour être sûr qu'il n'y ait pas d'air. Et à ce moment-là, le raisin.
Même tout interdit d'ouvrir quoi. Même ouais. si ça traîne ou
si ça prend 2 semaines, c'est pas grave. Okay. Mais ça prend jamais 2 semaines. Ça prend. Entre une demi-journée et 3 jours, les fermentations partent. Et à ce moment-là, je peux rouvrir mon chapeau, ma cuve, parce qu'on sait que les levures ont démarré à l'intérieur et aucune autre levure viendra prendre sa place parce qu'elles se sont développées. Voilà. Et après, bien sûr, aucun intrant, pas de filtration. Sulfite, je ne suis pas un dogmatique de l'antisulfite ou du sulfite, mais s'il y a besoin d'en utiliser un peu, j'en utilise.
Pas se priver, c'est pour rien gâcher non plus. Enfin,
c'est ça.
Donné,
Après, c'est vraiment c'est un suivi permanent des vins. Les vins, c'est des choses vivantes hein, dans la cuve et il peut y avoir des événements qui peuvent se passer en cours de vinification qui fait qu'à un moment donné, il faut dire stop, sinon ça part en vinaigre. Donc là. Soit on se dit, on assume, on se dit, bah tiens, moi je suis un vigneron punk et je vais faire du vinaigre qui ressemble à du vin ou l'inverse et qui peut être tout à fait assumé très bien, ça je le critique pas du tout, mais si j'ai pas envie, à un moment donné, il va falloir que j'intervienne. Et vite. Et parfois c'est un peu de sulfite.
Sulfite, tu colles un peu.
Non, jamais, aucun collage, aucun. Moi, quand je bois un vin, j'ai pas envie de manger forcément une omelette ou une tranche de poisson avec, quoi. Et encore moins des produits chimiques. Et donc ça, c'est hors de question.
Du coup, on parlait cave, on parlait méthode pour vraiment essayer d'avoir un produit de qualité, raisin clean, comment on le ramasse.
C'est ça.
Qu'est-ce que tu mets en œuvre?
Alors, ça va
quelles sont tes équipes? Comment tu bosses ça? Comment tu imagines ça?
Ça va même avant, c'est-à-dire c'est au choix de la date de récolte. Ça, des fois, ça se joue à 1 ou 2 jours près. C'est-à-dire que moi, des fois, je change, je permute ma programmation de vendange parce que je me dis, tiens, dans cette parcelle, il ne faut surtout pas que je la décale d'un jour. Donc, ça sera maintenant que je la ferai. Il y a la lune qui me dit que là, il vaut mieux que je le fasse ça. Ou tiens, il y a une pluie qui me dit, celui-là, je vais peut-être essayer de le pousser un peu 2 jours de plus. Et puis après, bah, les vendanges, c'est bien sûr entièrement à la main. Uniquement le matin, pas... Alors, pour la question des conforts des vendangeurs, de l'équipe, ça, c'est important.
C'est bien, j'allais y venir.
Mais oui, c'est important parce que c'est un moment de fête. C'est des moments très, très, très durs, les vendanges. Nous tous faits à la main, hein. Il n'y a pas de mécanisation. Mais il faut que ça reste un moment de fête.
On entend partout parler qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre dans le milieu agricole. Mais comme dans d'autres milieux, notamment l'hôtellerie et restauration, des milieux difficiles, tu le ressens? T'en penses quoi? C'est quoi ton analyse de ça?
Je peux pas trop me
prendre... Les collègues autour, les voisins?
Alors, pour moi, j'ai pas de problème à trouver du personnel. Il semble que les confrères, les autres vignerons qui sont aussi dans le même esprit que nous n'ont pas de problème non plus. Et après, je ne peux pas trop en dire plus parce que je sens pas trop cette pénurie. Mais bien sûr qu'elle existe, hein, puisqu'on en parle, j'imagine que c'est ça.
Après, alors, c'est plus la question de saisonniers qui n'ont plus envie de travailler dans des conditions peu particulières.
Où on peut pas nous loger, où
ils ne sont pas logés,
on n'a pas même pas de rallonge,
où ils sont mis dans un coin et où en plus tu travailles du conventionnel. Alors, est-ce que peut-être.
Pour donner par exemple un jour de vendange type, on commence le matin, on attaque dans la vigne. Bon, déjà, quand on arrive dans la vigne, on met la musique. Première chose, il y a consensus. En général, c'est du pompelop. Hein, voilà, on ne va pas mettre du Mozart. Donc ça va du punk, Azoufris Maracas, enfin voilà, des trucs qui boostent bien, où tout le monde met bien la pêche. À 10h, on se fait un super casse-croûte, c'est bonne ambiance, il n'y a pas de sifflet évidemment. Évidemment, moi en tant que vigneron, je suis quand même vigilant pour voir s'il n'y en a pas un qui est à la traîne. Et l'idée, c'est pas d'aller taper dessus, de dire ouais, tu traînes, c'est d'aller l'aider ou de dire aux autres, bah voilà, celui qui va plus loin, qui va beaucoup plus vite, au lieu d'aller plus vite,
pères, quoi.
Va aider celui qui va le moins vite, qui souffre le plus. Essayer de vraiment travailler l'équipe dans l'entraide et vraiment dans la bonne ambiance. Et puis à midi, voilà, donc on vendange, c'est du boulot. Bon, il y a le casse-croûte et tout à 10h, c'est cool. Et à midi, on fait en général le repas si on peut dans la vigne. Donc c'est moi qui leur fournis à manger. En général, je vais toujours chercher de la nourriture chez mes amis producteurs, donc les légumes, les pâtés, tout ça. Et on va boire le vin qui est sorti de la cuve l'année d'avant, qui est sorti de la parcelle mais de l'année d'avant.
Ah ouais, tu vas vraiment loin là. Ça,
donc à chaque fois on change de parcelle.
Ah oui, et après il y a une initiation. Quand je dis initiation, c'est à la cool. C'est-à-dire que j'ai envie de redonner un peu l'esprit du vin qu'on va boire pour l'amitié, quoi. Pour les copains, on est en train de bosser, mais putain, on va se faire un coup de pif, on va pas se défoncer la gueule, parce qu'il faut bosser, mais à un moment donné, il y a vraiment le côté plaisir, et on va pas le faire en costume et cravate.
Il y a un côté lien aussi avec... tu vois, on est là, c'est ça, c'est ce raisin-là, ça va donner ça. Je trouve ça génial, j'ai jamais vu ici...
Non, c'est très rare de boire le vin...
Ici, nous, c'est l'accro dans la glacière, quoi.
Voilà. Ah bah non, c'est...
J'ai jamais bu une clairette dans les vignes. En journée,
C'est ballon.
Jamais.
Non, moi c'est pif, et puis le soir c'est pif aussi.
J'ai pas fait les vendanges deux fois, j'ai 20 ans de vigne ici.
Faut peut-être leur proposer, peut-être qu'ils ont peut-être pas eu l'idée.
Ils boivent pas de clairette.
C'est possible. Et si je crois qu'il y en a un chez qui on en boit. Un très bon vigneron de Barsac.
Alors t'es celui qui vient du plus loin, hein, finalement.
Ouais, je crois. Ouais.
Pourquoi ici? Qu'est-ce que tu fais là?
Oh, c'est une histoire d'amitié, toujours.
Il y a pas d'ours.
Non, c'est une histoire d'amitié. J'ai un très bon ami qui est vigneron à Barça, qui fait de la carte de digue, qui est David Botin.
Il s'appelle David Botin, c'est un vieil ami aussi.
Le salue.
En fait, on s'est rencontrés il y a quelques années sur un salon vin bio et nature à Paris. Et voilà, il y a vraiment un lien qui s'est créé. Et régulièrement, moi, je lui donne un petit coup de main pour faire ses premières vinifs en nature. Et puis on s'est jamais quitté. J'avais fait la première, il a fait un petit salon vin nature il y a quelques années. J'étais venu
chez lui, ouais.
Voilà, il a refait cette année, je suis revenu. Et là, c'est pendant son petit salon, j'ai rencontré les organisateurs du salon là où on est aujourd'hui, et qui m'ont dit ce serait cool si tu pouvais venir aujourd'hui au salon des vins nature de Guy.
C'est le réseautage.
Ben ouais. Après j'ai bientôt 50 balais, et enfin ce qui produira, quand on est dans le domaine professionnel, tout ce qui sera produit humainement sera toujours plus important que ce qui est produit financièrement, économiquement. Et en fait, on s'aperçoit que quand on privilégie ça, et ben en fait, économiquement derrière, ça va, ça suit. On n'a pas besoin de se battre pour faire du commerce. Évidemment, il faut bosser, il faut faire des vins qui tiennent la route, mais on trouvera toujours une clientèle. Et si on le fait honnêtement et en amitié, ça roule.
T'as envie ?
Alors aujourd'hui, c'est compliqué parce que on n'a pas tout parlé. Pour l'instant, j'ai pas encore vraiment de cave. J'ai eu pas mal d'histoires personnelles où j'ai perdu ma première cave suite à un divorce. J'ai déposé un permis de construire pour faire ma cave, et permis obtenu. Et quand j'ai voulu commencer, j'ai un cher riverain qui m'a attaqué au tribunal, mon permis pour m'emmerder. Donc je suis passé pendant 2 ans sans cave. Donc là, je suis un peu SDF de cave. Donc ça va être la deuxième année en fait que je vinifie chez des potes vignerons qui m'accueillent.
Ah ouais, hein.
C'est chouette.
La solidarité, quoi.
C'est ça, toujours. Mais ça, c'est important. C'est-à-dire je veux pas jouer sur l'amitié, justement, par intérêt. Vérité, mais on a le retour. On a le retour à un moment donné. On sait qu'on sera jamais, à la rue, parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour nous dire mais viens, il faut que tu continues ce que tu fais. Donc, dans ces conditions-là, j'ai jamais pu produire tellement plus que 5-6 000 bouteilles par an, ce qui est un peu limite pour en vivre. J'en suis pas loin, mais j'en suis un peu limite. Et là, ça y est, j'ai gagné mon procès, la cave est en construction, donc j'espère bien à partir de l'an prochain ou dans 2 ans pouvoir vivre honnêtement, je ne vais pas dire grassement, mais juste honnêtement de mon métier. Et voilà, je vais faire mes 10, 12 000 bouteilles par an, pas plus, continuer à travailler comme je le fais. Et puis voilà, puis après la vie est belle.
Où est-ce qu'on les trouve du coup tes voilà. bouteilles? On le trouve où?
Alors ici dans le secteur, ça va commencer eh ben, au Jaja Culture.
Encore eux, c'est la mafia ou quoi?
Il va les avoir dès ce soir ou dès demain matin, mais il va les avoir, ça y est, ça sera la première.
Peut-être qu'ils vont les boire d'ici demain par contre. Moi j'en réserve, non, hein, non, si non, tu non, m'entends Malik.
Non mais Malik il m'a promis qu'il en garderait pour ses clients. Et puis voilà quoi.
Non voilà, en local, mais sinon comment, où est-ce que tu te distribues?
J'en ai pas très très bon commercial. Ben moi je fais quelques petits salons par an, comme aujourd'hui, j'en fais deux à Paris. Et puis après, ben chez moi, j'ai 2-3 restaurants, 2-3 petits cavistes, j'en ai aussi un peu du côté de Lyon. Et puis ça se passe bien en fait. Voilà. Après si on veut me trouver, ben, en fait il faut chercher Domaine des Élianthèmes sur internet. Et puis suivant bah, où on se trouve, on dit bah coucou, je suis dans tel coin, est-ce que. Ouais, ou bah tiens, je suis dans tel secteur, est-ce que c'est possible de trouver au vin? Et puis bah oui, si c'est non, c'est non, ou sinon bah t'inquiète, je peux te l'envoyer.
On peut passer chez toi de voir.
Ah oui, oui.
Continuer cette conversation, ce qu'on aurait envie d'aller continuer un peu dans les vignes.
Ouais, ça se passe super bien en général. Ouais.
Trop bien. Ouais. Et bah où alors, comment on fait pour contacter?
À Morillas, alors Morillas Lazillas, dans le 66, Morillas MAU. Et sinon, Domaine des Élianthèmes sur internet, j'ai pas de site internet, mais j'ai une page Facebook quand même. Ah. J'ai même pas de carte de visite, mais voilà, on tape Domaine des Élianthèmes, on le trouvera. Et puis après, voilà, on se rencontre, on boit quelques coups, on mange 2-3 rondelles de cochon, et ça roule.
Qu'est-ce que t'écoutes toi quand tu bosses en musique dans ta cave ou dans ton tracteur?
Alors,
ou dans ta bagnole quand tu pars?
J'ai pas de tracteur dans la vigne.
Mais oui, il nous a dit que non.
C'est très éclectique, ça va du punk, j'écoute pas mal de punk.
Tu peux choisir le morceau qui
conclut.
Alors, c'est le nom d'une de mes cuvées de vin orange et qui s'appelle Salut à toi.
Une cuvée que j'ai déjà goûté d'ailleurs, du coup, c'est trop bien, ça me fait plaisir.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Olivier?
Bah, du bonheur, de la joie, du soleil, des potes et encore du vin, plein de vin.
Et un bâtiment qui se construit.
C'est ça, mais il est déjà parti, lui, ça y est, il s'arrêtera pas.
Trop bien.
Il s'arrêtera pas.
Bon, bah, cool.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Salut.
Ciao.
Salut à toi peuple khmer, salut à toi l'algérien, salut à toi le tunisien, salut à toi Bangladesh, salut à toi peuple grec, salut à toi petit indien, salut à toi punk iranien, salut à toi rebelle afghan, salut à toi le dissident, salut à toi le chilien, salut à toi le petit malien, salut à toi le mohican, salut à toi peuple gitan, salut à toi l'éthiopien, salut à toi le tchadien, salut à vous les partisans, salut à toi chaud allemande, salut à toi le vietnamien, salut à toi le cambodgien, salut à toi le japonais, salut à toi le thaïlandais, salut à toi le laotien, salut à toi le coréen, salut à toi le polonais, salut à toi l'irlandais, salut à toi l'européen, salut à toi le mongolien, salut à toi le hollandais, salut à toi le portugais, salut à toi le mexicain, salut à toi le marocain, salut à toi le libanais, salut à toi le pakistanais, salut à toi le philippin, salut à toi le jamaïcain, salut à toi le guyanais, salut à toi le togolais, salut à toi le guinéen, salut à toi le guadeloupéen, salut à toi le congolais, salut à toi le sénégalais, salut à toi l'afro-cubain, salut à toi le portoricain, salut à toi la haute volta, salut à toi le Nigeria, salut à toi le Gaboni, salut à toi le vieux ch'timi, salut à toi Che Guevara, salut au comité de soldats, salut à tous les hommes libres, salut à tous les apatrides, salut à toi la Vertaga, salut aussi à la Panda, salut à toi le punk anarchiste, salut à toi skin communiste, salut à toi le Liberia, salut à toi le Sri Lanka, salut à toi le Sandiniste, salut à toi le légendiste, salut le mouvement des jeunes arabes, salut à toi Guatemala, salut PK du contingent, salut à toi le Chotopan, salut à toi Pop Kanak, salut à toi Tchécoslovaque, salut à tous les
dragon. Salut à toi qui es que bon. Salut à toi jeune malgache. Salut à toi le pop-up-back. Salut à toi qui est au violon. Salut à toi les morocons. Salut à toi le yougoslave. Salut à toi le voyou slave. Salut à toi le salvador. Salut à toi le monodoy. Salut à toi le chinois. Salut à toi le zaïrois. Salut à toi l'espagnol. Salut à toi le ravachol. Salut à toi le hongrois. Salut à toi l'iroquois. Salut aussi à tous les gosses, des îles maudites jusqu'à l'Écosse. Salut à Boudou les Azous. Salut à la jeune garde rouge. Salut à toi le peuple corse. Salut aux filles du trésor. Salut à toi la vache qui rit. Salut à nos